Mémoire vive,
présentée par Perrine Kervran
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous. Comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire culturelle du judaïsme et la mémoire de la Shoah. Comment aborder la question de l'antisémitisme, du nazisme et de l'Holocauste avec de jeunes enfants? C'est une question à laquelle on fait face régulièrement en tant qu'adultes, parents ou enseignants. L'album Jeunesse, dont nous allons parler aujourd'hui, est une réponse possible à cette question délicate et offre paradoxalement une réponse assez poétique. Les arbres pleurent aussi, c'est le titre de ce livre, évoque en effet la captivité et la déportation d'Anne Frank à travers les souvenirs du marronnier qu'elle pouvait apercevoir de la lucarne du grenier de l'annexe où elle se cachait avec sa famille et d'autres personnes. Un marronnier désormais disparu, mais dont les pousses ont été plantées dans certains lieux de mémoire, notamment aux États-Unis, au Canada et au jardin Anne Frank à Paris. Avec nous pour en parler, Irène Cohen-Janka, qui est l'auteur du texte de cet album, Les arbres pleurent aussi, et dont les dessins sont signés Maurizio Acequarello. Donc bonjour, Irène Cohen-Janka. Alors, depuis 150 ans, je vis dans un jardin derrière la maison 263 Canal de l'Empereur à Amsterdam. Bientôt, peut-être, les hommes m'abattront. Aussi, je veux raconter ce qui, au 263 Canal de l'Empereur, il y a bien longtemps, s'est passé. C'est un passage qu'on trouve au début de votre album et c'est le narrateur de votre album qui parle, un narrateur qui est un arbre, qui va raconter ce qu'il a vu. Comment pouvez-vous nous dire la rencontre que vous avez faite avec cet arbre? Comment avez-vous découvert l'histoire de cet arbre?
J'ai découvert l'histoire de cet arbre en allant visiter la maison Anne Frank. Alors le journal, je le connaissais depuis très longtemps, hein, depuis que je suis enfant. Hein, C'est d'ailleurs ce journal qui m'a donné envie, quand j'étais enfant, à peu près à l'âge où Anne Frank commençait le sien, de tenir mon propre journal. Et il se trouve que je suis allée à la maison d'Anne Frank en 2005-2006. Et on parlait déjà de cet arbre qui était malade. Et j'ai relu le journal. J'ai mesuré à quel point cet arbre tenait une place importante dans la captivité d'Anne Frank, hein, puisqu'il était à peu près sa seule lucarne ouverte sur le monde, sur la nature. Et puis, il y a eu un autre événement qui a vraiment déclenché l'écriture de cet album, c'est la mort d'Ilan Halimi. Voilà, ça a été un événement extrêmement important pour moi. Nous savons que Ilan veut dire « arbre », et une espèce de fusion qui s'est opérée et qui m'a fait écrire au nom de l'arbre. Voilà.
Alors peut-être vous pouvez rappeler pour les auditeurs qui ne savent pas exactement ce qui s'est passé, donc la mort tragique d'Ilan Halimi.
Voilà, la mort tragique d'Ilan Halimi, qui est d'actualité aujourd'hui puisqu'il y a eu un appel et que donc il y a un nouveau procès. Donc Ilan Halimi a été capturé, kidnappé en janvier 2006 et a été tenu dans des conditions absolument effroyables, en captivité pendant 3 semaines, subissant torture, étant affamé, étant battu, étant isolé, pour terminer 3 semaines plus tard, voilà, totalement détruit. Et j'ai trouvé que, enfin, je pense, je ne vais pas m'exprimer au nom de toute la communauté, naturellement, mais pour moi, ça a été extrêmement traumatisant parce que pour la première fois, il m'a semblé qu'il y avait comme une réactualisation de la Shoah. Je pense qu'il y a eu, c'était naturellement tout à fait antisémite, hein. C'est le nom d'Ilan qui était vraiment porteur de mort. Hein. Si Ilan n'avait pas été juif, il n'aurait pas subi ce qu'il a subi. Je pense que dans la déréliction dans laquelle il a dû être plongé, compte tenu de l'abandon, de la torture dans laquelle il a été tenu pour terminer, la déshumanisation aussi, hein, ce projet vraiment de déshumanisation quoi, totale de l'homme par le fait qu'on l'a retrouvé nu, qu'on l'a retrouvé tondu, qu'on l'a retrouvé aussi abandonné le long d'une voie ferrée, hein, laquelle menait vers les camps du Loiret. Hein. Il m'a semblé vraiment qu'il y avait une communauté de destin là, entre Anne et Ilan, et comme une réactualisation vraiment pour la première fois de la Shoah. Il m'a semblé que je comprenais pour la première fois vraiment au présent à la fois cet abandon. Et personne n'est venu, quoi. Personne n'est venu. Je pense qu'Ilan a attendu pendant ces 3 longues semaines. Et voilà. Donc Ilan est mort en plus le jour de Toubichvat. Hein, on l'a retrouvé voilà, sont autant de signes, je trouve. Bon, on ne va pas interpréter tous ces signes, mais ça forme vraiment, je trouve, un faisceau de signes qui sont pas sans nous interpeller.
Voilà, donc on a compris que cette affaire vous a beaucoup marqué. Alors si on revient à Anne Frank, Irène Cuenjanka, elle est une des figures universelles de l'histoire de la Shoah. Elle est souvent le truchement à travers lequel les adolescents accèdent à cette histoire de la Shoah. Est-ce que vous avez vous-même gardé un souvenir fort de ce texte d'Anne Frank ?
Oui, j'en ai gardé un souvenir très fort. Et en le relisant, là, donc avec de nombreuses années d'écart, j'ai été surprise par l'extrême maturité d'Anne Frank, par la qualité littéraire du texte, vraiment par sa richesse. Vraiment par sa richesse. Je crois qu'enfant, bon, c'est plutôt l'aspect familial, toutes les tensions qui existaient entre une adolescente et sa famille qui avaient retenu mon attention. Donc ça, évidemment, maintenant, ça m'a moins interpellée. Mais en revanche, j'étais très surprise par la qualité. Et alors, je me suis dit, probablement, elle aurait été un grand écrivain. Probablement, parce que j'ai lu également des petites nouvelles, des contes qu'elle avait écrits, et c'est surprenant de maturité et déjà très, très prometteur.
Oui, parce que même si chacun a bien en tête donc, la figure d'Anne Frank, il faut peut-être malgré tout rappeler que c'est une jeune fille de 13 ans qui a quitté l'Allemagne nazie avec ses parents avant de devoir se cacher avec sa famille aux Pays-Bas. Et une fois les Pays-Bas envahis par Hitler, elle a dû donc se cacher sur une décision de son père et avec l'aide de certains collègues de son père.
Absolument. Hein, vraiment, ils ont bénéficié comme ça de la complicité de gens qui travaillaient avec son père pour pouvoir survivre dans des conditions, bon, évidemment très dures, mais comparativement au reste de la communauté, tout de même acceptables, hein, puisqu'ils étaient quand même nourris, ils étaient. Et donc, elle a passé donc 2 années dans cette annexe où ils étaient obligés évidemment de ne pas faire de bruit. Donc c'est un climat de grande angoisse. Et le lieu est encore très, très porteur. De tout ça. Le lieu témoigne très fortement. Les murs sont vraiment imprégnés de tout ce qui a été vécu. Là, voilà. Et donc, au bout de 2 ans, ils ont été dénoncés. Voilà.
Et donc, Anne Frank a été déportée. Elle est donc
morte à Bergen-Belsen. Où elle était avec sa sœur, hein, donc sa mère est morte, sa sœur est morte quelques jours avant elle. Hein, elle est morte du typhus, elle est morte.
Et donc son père a retrouvé finalement le journal à son retour, car lui a été le seul rescapé de ceux qui étaient cachés avec elle et a décidé de publier ce journal.
Voilà, la secrétaire de son père, donc, qui les a aidés à survivre, après leur arrestation, a trouvé des feuillets éparpillés sur le sol, donc elle a ramassé, qu'elle a donné au père d'Anne Frank, lequel ensuite a tout mis en œuvre pour que ce journal soit connu, et je crois qu'il est... Deuxième livre, je lisais récemment, le deuxième livre le plus lu après la Bible, ce qui donne une idée quand même de la notoriété.
Alors vous avez beaucoup écrit pour la jeunesse, Irène Cuenjanka, des ouvrages parfois en lien avec l'histoire, dont un sur Staline, une biographie pour la jeunesse, ou d'autres sur la vie en URSS. Pourquoi cet attrait des thèmes historiques pour la jeunesse? Est-ce qu'il y a une façon spécifique d'aborder l'histoire quand on s'adresse à la jeunesse?
Oui, je pense que c'est bien de rappeler l'histoire et de le faire au travers de textes qui leur soient accessibles. J'ai écrit un texte aussi qui s'appelle « Le chant de l'innocent », qui là parle non pas tant de la guerre, mais de l'après-guerre, puisque c'est un texte qui se situe dans les années 50 et qui pose le problème de la délation. Je pense qu'il y a une manière d'aborder l'histoire... Et voilà, je crois qu'il faut traiter, de toutes ces pages sombres, mais je me fais en même temps un devoir d'ouvrir toujours une petite porte à la fin des textes. Voilà, je crois qu'on n'a pas le droit de désespérer, nous-mêmes d'ailleurs, nous n'avons pas le droit de désespérer, mais je crois que c'est encore plus vrai lorsqu'on écrit pour la jeunesse.
Alors votre livre donc évoque les 2 années pendant lesquelles Anne Frank et sa famille étaient cachées. C'est l'arbre qui raconte les souvenirs qu'il a d'Anne. Comment est-ce que vous avez utilisé ce journal pour faire ce texte? Est-ce qu'il y a vraiment une présence du marronnier dans le texte d'Anne Frank?
Oui, hein, oui, le marronnier est présent. Donc j'ai restitué quelques bribes de texte où il est évoqué. Et on voit l'importance, il est à lui tout seul toute la nature dont elle est privée. Et il est un soutien. Je crois qu'on voit à quel point aussi, au travers de ce marronnier, la nature est un soutien pour l'homme. C'est aussi ça que je dis aux enfants, qu'il y a une consolation que l'on peut toujours trouver dans la nature, et peut-être plus particulièrement dans la proximité des arbres, qui, par leur force, leur persévérance à durer, sont une leçon de sagesse, Et je crois que pour Anne, c'est très important parce qu'elle le voit. Il marque aussi le temps, hein, puisque étant écartée de toute vie sociale, alors qu'elle a été une jeune fille, on le voit au travers du journal, une jeune fille qui a beaucoup aimé sortir, s'amuser. C'était une enfant très vive, hein, très, très enjouée, qui avait beaucoup d'amis. Donc elle a été privée de tout pendant ces 2 années. Et donc ce marronnier est aussi une façon de marquer le temps, de marquer les saisons,
Et donc vous avez effectivement décidé de faire de ce marronnier le narrateur. Comment est-ce que vous avez pensé la structure de ce livre? Comment est-ce que vous avez décidé de donner une voix au marronnier?
Je vous l'ai dit au départ, c'est un peu bizarre, hein, on ne s'explique pas trop les choses, mais je crois que c'est vraiment c'est la mort d'Ilan Halimi. C'est vraiment, il me semble qu'il y avait comme une, je ne pourrais pas vous dire comment, mais il y avait une sorte d'incarnation là, en cet arbre. Enfin, ça s'est rejoint de façon un peu obscure pour moi, mais ça s'est imposé un peu comme ça. Et puis voilà, et puis non, je pense aussi que les arbres, que les arbres ont une présence si forte qu'on peut imaginer que cet arbre, une fois Anne disparue, je ne sais pas... Hein. A ressenti cette absence.
Et alors, à un moment, le marronnier retrace le contexte de l'époque et vous dressez alors une liste des interdictions faites aux Juifs, une liste qui rappelle la liste que dressait Victor Klemperer dans son journal. Est-ce que vous avez utilisé d'autres textes, d'autres références pour écrire cet ouvrage?
Oui, quelques ouvrages d'histoire, donc pour que cette liste soit exacte, bien sûr, oui, quelques ouvrages.
Alors la symbolique de l'arbre, hein, est très, très importante dans votre récit. Et ce qui est intéressant, il le dit au début du texte, il est âgé, il est malade, il doit parler avant de mourir. Donc comme ceux qui ressentent le besoin de témoigner avant de disparaître. Donc on pense là à l'idée de perpétuer la mémoire, de se décharger. Et cet arbre est un peu la figure des survivants de la Shoah, des survivants qui sont pour la plupart presque tous disparus, et pour ceux qui restent très âgés. Est-ce que vous avez fait ce parallèle entre l'arbre et ses témoins?
Oui, et puis surtout, il me semblait que dans le fait qu'on puisse, comme ça, l'arbre disparaissant, ce qui était important, c'était dans ce geste, comme ça, de prendre un greffon et de l'implanter ailleurs pour que cet arbre puisse se multiplier et prospérer ailleurs, sur d'autres continents même. C'est l'idée que vraiment il faut perpétuer la mémoire et que l'arbre en lui-même, et bien sûr qu'il était important, mais qu'il fallait aller au-delà et que voilà, ce geste de le réimplanter ailleurs était aussi symbolique de cette mémoire qu'il fallait reconduire toujours. Et ça, c'est une affaire vraiment de... Voilà, c'est une affaire de volonté, c'est une affaire, je crois qu'il faut dire, raconter, qu'il ne suffit pas de planter un arbre, voilà, qu'il faut aller au-delà et qu'il faut encore et encore dire et raconter.
Alors, votre livre permet des entrées sur des questions dures à aborder avec les enfants, donc les interdictions, la vue, la persécution, la dénonciation, la déportation, la mort en camp de concentration. Il pose le sujet sans rien éluder, mais sans rien imposer non plus. Vous proposez plutôt des portes d'entrée à travers les dessins, notamment. On voit représenter une étoile jaune, on voit des soldats SS, on voit les barbelés des camps. Comment est-ce que vous avez pensé, justement, ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait pas dire, ce qu'il fallait induire? Comment vous avez... partager un peu.
Là, je crois qu'il faut vraiment saluer le travail de Maurizio Quarello, hein, qui a fait, je trouve, un travail absolument magnifique. Pour qui connaît Maurizio Quarello, il saura que ses albums sont extrêmement luxuriants, très hauts en couleur, et que là, il s'est efforcé à une grande humilité, hein, il l'a dit. Hein, donc il a traité ça avec beaucoup d'humilité, mais beaucoup de force. Et c'est lui qui, par exemple, a fait le choix. On a une double page où on voit toute une ville détruite, et la page suivante, on voit un enfant qui est en train de jouer, qui est en train de pousser une roue qu'on peut supposer être une roue de vélo ou n'importe quoi. De même qu'à la fin, il y a une petite pousse. Hein. Et je crois que là, il y a une... Ça, c'est vraiment de son fait. Hein.
Et vous avez travaillé justement comment avec lui? Vous lui avez donné des indications? Vous avez dialogué l'un avec l'autre pendant ce travail?
On s'est rencontrés avant qu'il ne commence à travailler. Donc moi, je lui ai dit un petit peu pourquoi j'avais écrit cet album. Et je crois qu'à partir de là, avec sa propre sensibilité... Voilà. Mais sinon, au cours... Alors, il y a eu peut-être un dialogue plus net avec nos éditeurs. Hein. Et moi, ça m'était soumis. Mais bon, non, je n'ai pas eu... En tout cas, je n'ai pas eu un véritable... au départ. Et ensuite, je crois qu'il a laissé vraiment libre cours à sa propre interprétation du texte.
Alors, donc, je le disais au début de l'émission, on se demande souvent comment aborder la question de la Shoah avec les enfants. Donc, votre livre propose une entrée possible, assez poétique, comme je le disais. Quelles craintes et quels écueils avez-vous rencontrés? Qu'est-ce que vous avez eu comme démarche par rapport à, justement, ce que vous pouviez dire et comment le dire, en tout cas?
Je ne sais pas, ça s'est fait assez naturellement. Bon, et... il était évident qu'il fallait qu'il ait une charge poétique importante. Hein, c'est ça qu'il me semblait devoir garder, et pour aussi que l'image d'Anne soit celle-là aussi, c'est-à-dire d'une jeune fille qui écrit, d'une jeune fille qui rêve, d'une jeune fille. Donc c'est aussi rester fidèle en quelque sorte à cette image d'Anne que l'on doit garder. Hein. Voilà, puis sinon ça s'est imposé un peu naturellement, et j'avais quand même le texte d'Anne qui me soutenait, hein, qui est restitué par endroits et qui est un peu le fil aussi, hein.
Et vous avez eu des réactions d'enfants, alors je sais pas, dans votre entourage ou qui ont vous avez eu des réactions d'enfants, Irène Cohen-Jeanca, de votre entourage ou d'autres enfants qui ont lu ce livre et qui vous ont peut-être fait part de leur impression, de leur ressenti, ou qui vous ont posé des questions après la lecture du livre?
Oui, j'ai vu des enfants. Je vais en voir beaucoup, là, maintenant, puisque ce livre fait partie de la sélection des Incorruptibles, hein, qui est un grand prix. Et donc, je vais me balader un petit peu et je vais rencontrer les enfants. Ils sont très touchés. Ils sont quand même très touchés. J'en ai déjà rencontré et ils sont très touchés. Ils sont... ouais, je crois que ça les laisse un peu aussi... peu surpris, un peu...
Qu'est-ce qu'il vous pose comme question? Qu'est-ce que...
On raconte beaucoup l'histoire d'Anne, que certains connaissent. On parle du journal aussi. On parle beaucoup du journal. Hein, du journal permettant de... voilà, qui est une forme littéraire qui permet à chacun de vivre, dans le cas d'Anne, de survivre. Oui, et puis ils sont un peu étonnés, bien sûr, par le fait, mais peut-être moins que les adultes, par le fait qu'un arbre parle.
Et au-delà de la question de l'arbre, est-ce que vous avez l'impression que peut-être il y a une préparation avant avec les enseignants, j'imagine, ou...
Oui.
Comment ça se passe
Il y a toujours une préparation. Hein. Oui, oui. Non, les enfants que j'ai rencontrés autour de cet album, il y avait toujours une préparation. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà un petit peu au courant du contexte historique. Et puis surtout, beaucoup ont entendu parler déjà du journal d'Anne Frank. Hein, certains, quand ils sont un petit peu plus âgés, l'ont étudié même, hein, ont étudié quelques pages. Donc, ils en ont déjà une approche.
Et quelles sont les choses qui les troublent le plus, j'imagine, parce que j'imagine que c'est une histoire quand même pour les enfants qui est peut-être difficile à aborder, la question notamment de la mort d'Anne Frank, la question de sa mort en déportation, la question de la dénonciation. C'est des choses comme ça que vous arrivez à aborder de quelle manière avec les enfants?
Mais je crois que, au fil des questions, on répond, oui, le problème de la délation... moi, j'insiste beaucoup, bien sûr, il y a ceux qui les ont dénoncés, mais j'insiste aussi beaucoup sur l'énigme du bien qui, à mon avis, est bien plus grande que celle du mal. Et je crois que c'est très important de parler de tous ceux qui ont permis à la famille Frank et aux gens qui étaient avec eux, puisqu'il y avait d'autres, il y avait un autre couple avec son fils, plus encore un autre homme, hein, qui leur ont permis, au risque de leur propre mort, de survivre. Donc moi, c'est vraiment un point, quand vous me disiez voilà, la rencontre avec les enfants, c'est ce sur quoi j'insiste beaucoup, sur l'énigme du bien, sur ces gens, sur la figure du juste, hein, et c'est d'ailleurs dans le champ de l'innocent qui est sur le problème de la délation, il y a également comme ça une figure de juste qui pour moi est très importante, et c'est ce que je veux dire surtout aux enfants et aux adolescents. Je leur dis que l'énigme du bien est infiniment plus grande que celle du mal.
Alors, on le sait, hein, désormais, le marronnier d'Anne Frank est tombé. En août dernier, après avoir été sauvé de l'abattage une première fois par des associations. Ouais. Donc, des pousses ont été plantées. Alors, il y a même un site internet qui est consacré à cet arbre. Les enfants ou d'autres personnes peuvent y déposer une feuille, c'est-à-dire écrire un message pour Anne Frank. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il y a tant d'émotions autour de cet arbre quand il reste quand même le journal, la cachette où Anne Frank a vécu? Il reste tellement de choses matérielles et concrètes. Pourquoi finalement cet arbre prend tant de place?
Mais peut-être parce que c'est... déjà, il a une place dans le journal. Et puis, je sais pas pourquoi. C'est vrai que quand il y a eu une mobilisation extraordinaire, hein, puisqu'il était déjà très menaçant, hein, lorsqu'on s'est aperçu qu'il pouvait tomber, et le propriétaire, puisque cet arbre est situé dans le jardin voisin, donc le propriétaire avait demandé l'autorisation de le faire abattre, puisqu'il constituait une menace. Il y a eu une mobilisation telle que l'arbre a été corseté pour qu'il puisse encore tenir. Ah, c'est un attachement parce que je crois qu'un arbre est vivant c'est pas un être, bien sûr, c'est pas une créature humaine, mais c'était peut-être quelque chose de vivant qui avait sur quoi les yeux d'Anne s'étaient posés, qui avait aidé Anne à vivre.
On a parfois presque la sensation, quand on regarde certains de ces messages, justement, sur Internet... qu'il s'agit d'une créature, presque qu'il s'agit dans l'esprit de certains, alors pas d'une réincarnation, mais presque d'une trace d'Anne Frank. C'est assez troublant, cette espèce de vision qui se trouble autour de l'arbre et des pousses de l'arbre qui deviennent presque des rameaux d'Anne Frank, on a l'impression, dans l'esprit de certains.
Ah oui, c'est joli, ça, tiens, des rameaux d'Anne Frank. Oui, non, je ne sais pas. Peut-être aussi, on vit une époque où on a une sensibilité aussi écologique. Je crois qu'on peut peut-être aussi... Je crois que les enfants sont quand même très sensibilisés maintenant à tout ce qui est protection de la nature, protection de la forêt. Peut-être qu'il y a quelques années, ça n'aurait pas eu un tel écho. Je pense qu'il y a peut-être aussi quelque chose comme ça. Et c'est vrai que là-bas, tout a été tellement maintenu en l'état. Hein. La maison est vraiment... Elle est vraiment telle qu'elle était, hein, je crois que... Et c'est pourquoi c'est aussi troublant, et l'atmosphère y est aussi lourde, aussi poignante. Les murs sont vraiment, comme je le disais tout à l'heure, extrêmement imprégnés. Donc tout est un peu... il faisait partie de ce décor, quoi, qui a été le dernier décor d'Anne.
Merci Irène Cohen-Janka. Alors, votre livre donne une postérité à cet arbre et fait entendre la voix d'Anne Frank pour les plus jeunes. Donc, il s'intitule, je le rappelle, « Les arbres pleurent aussi » et il est édité aux éditions du Rouergue. C'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Trois adresses pour nous retrouver et nous écouter sur Internet. www.radiorcj.info, le site de la Fondation, www.fondationshoah.org.